Je vais faire un petit retour en arrière très rapide et très simplifié en fait pour pouvoir bien situer comment on en est arrivé là aussi. Donc au XXe siècle, Hong Kong est une colonie britannique et en 1997, on a la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc il y a un deal entre l'Angleterre et la Chine. Ils leur rendent Hong Kong, mais à certaines conditions, notamment de pouvoir maintenir les libertés qui étaient existantes à Hong Kong. Ces libertés incluaient notamment la liberté d'expression, de presse et le partage de valeurs démocratiques. Il leur avait notamment été promis aux Hongkongais que serait instauré un suffrage universel. Et donc à partir de 1997, on entre dans une période de 50 ans qui normalement est la durée de la réinsertion, de la réintégration de Hong Kong dans le territoire chinois qui devait être complète en 2047. Il se trouve que la Chine a certainement voulu prendre un peu d'avance et à partir des années du début des années 2010, il y a certaines lois que cherche à faire passer la Chine à Hong Kong qui sont pas du goût des Hongkongais et qui sont pas dans l'esprit en fait de la rétrocession. Notamment la réécriture du contenu scolaire version parti communiste chinois. Donc à partir de ce qui a mené entre autres en 2014 à ce qu'on a connu sous le nom de la révolution des parapluies, parce que les Hongkongais utilisaient des parapluies en fait pour se protéger des gaz lacrymogènes de la police. Le mouvement s'est relativement essoufflé puisque il y a eu un retrait de ce qui avait été initié par la Chine. Mais à nouveau en 2019, la Chine tente d'imposer une loi d'extradition qui permettrait en fait aux Hongkongais qui font face à la justice à Hong Kong d'être envoyés sur le territoire chinois de la Chine continentale. Or, le système judiciaire n'est pas le même. En Chine, vous avez par exemple la peine de mort. Et les Hongkongais, du coup, se retrouvent dans la rue, très nombreux. En juin 2019, on a... Alors, les chiffres varient en fait d'une source à l'autre, mais on a quasiment jusqu'à 2 millions de personnes qui sont dans la rue et c'est conséquent quand vous savez qu'à Hong Kong vous avez un peu plus de 7 millions d'habitants. Donc ces manifestations monstres en fait font que à nouveau le gouvernement recule et fait retirer la loi d'extradition, mais à ce moment-là le mouvement demande en fait l'instauration du suffrage universel qui leur avait été promis entre autres et bien évidemment ça ne marche pas et au contraire on voit dès juillet 2020 que la Chine tape du poing sur la table et impose, Pékin impose une loi de sécurité nationale qui va même plus limiter mais quasiment détruire tout l'édifice de liberté qui était existant à Hong Kong. Donc ces photos, elles ont été prises de septembre 2019 à juillet 2020 jusqu'au moment de la loi de sécurité nationale et en fait elles montrent comment progressivement on en est arrivé à la perte de cet espace démocratique. Ici, vous avez une photo du 4 juin 2020. Le 4 juin, c'est la date de commémoration du massacre de Tiananmen. Celle-ci, elle est vraiment emblématique en fait, parce qu'à Hong Kong, c'était le seul lieu en Chine où il était possible de commémorer cette date. Partout ailleurs, il est absolument interdit même de prononcer le 4 juin. Souvent, on parle du 35 mai en Chine. Mais à Hong Kong, depuis 30 ans, il était possible d'allumer une bougie à 20h et de se souvenir en fait de ceux qui sont morts sur la place Tiananmen. Pour la première fois, en 2020, la veillée a été interdite par les autorités. Alors, certains interpréteront ça non pas comme une mesure sanitaire, mais comme une décision politique, très certainement. Les Hongkongais se sont tout de même réunis dans le parc Victoria, tout en respectant la distanciation sociale, hein, on le voit. Et très calmement, ils ont fait leur veillée. Je dis très calmement et même de manière pacifique, même si aujourd'hui le gouvernement hongkongais n'aime pas le terme pacifique et ça a été reproché en fait qu'on utilise ce terme pour cette veillée. Il n'empêche que c'est rien passé. À ce moment-là, en revanche, aujourd'hui, nous avons de nombreuses personnes qui font face à des procès et des peines de prison fermes pour avoir uniquement participé à cette veillée. Joshua Wong, qui est relativement connu comme activiste pro-démocratie, qui est ce jeune homme de 24 ans qu'on a pu voir dans beaucoup de journaux occidentaux, était présent, on s'est croisés, il était assis avec trois copains, hein, il n'a pas fait de discours, rien. Il a été jugé et il a pris 10 mois de prison ferme pour avoir été là. Donc voilà, aujourd'hui il y a 22 personnes qui font face à des procès pour ça, et beaucoup d'activistes, mais aussi d'hommes politiques, hommes et femmes politiques, d'élus, de journalistes, engagés dans une démarche des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, pour des faits qui, en France, ne seraient pas du tout répréhensibles, font face à des peines de prison ferme. Soit ils partent en prison, soit ils partent en exil. Nombreux sont ceux qui partent aujourd'hui en Angleterre, au Canada, en Australie, pour pour ne pas faire de prison.
Et vous avez pu travailler librement ?
J'ai pu travailler librement. Et à vrai dire, à partir du moment où il y a eu le Covid, il y a eu des restrictions qui font que c'était plus compliqué de se rassembler, notamment. Mais c'était toujours possible, preuve en est, cette photo du 4 juin, le Covid avait déjà commencé depuis plusieurs mois. Par contre, à partir du moment où la loi de sécurité nationale a été instaurée au 1er juillet 2020, il y a eu une dernière grande manifestation. Et après cela, la nature du mouvement a complètement changé. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où ce sont des procès hebdomadaires et des jugements avec des peines de prison fermes qui tombent quasi quotidiennement.